faut arrêter avec les dérapages, hein. Vous savez, ces sorties de route, ces dangereux glissements, ces écarts par rapport au droit chemin, à ce qui est prévu ou attendu. Quelquefois, on donne l'impression de déraper, mais vous savez comme c'est, hein. C'est juste la route qui est dégueulasse. Et quand on part toujours du principe que ceux qui dérapent sont en roue libre, bah, il faut leur donner un tout petit peu de crédit. Si ça se trouve, tout a été répété. Ce sont des dérapages contrôlés, qui sont d'autant plus réussis, vous le savez, quand on donne l'impression d'avoir frôlé l'accident. Le dérapage contrôlé, en réalité, c'est un spectacle, hein. Ça fait semblant. C'est un virage qui semble fatal, mais qui en réalité est très bien négocié. Certains vous diront que c'est un art qui est très bien maîtrisé, cette entrée. D'autres comme moi vous diront que c'est un métier. Ça repose sur des glissements qui ont été testés, mesurés au centimètre ou à la virgule près. Il arrive même qu'ils aient été écrits sur une feuille de papier. Tu parles d'un dérapage. C'est un mot de trop dans un discours de candidat. C'est une expression malheureuse tirée d'une interview qu'on a relue, hein, on l'a pas publiée comme ça. C'est une citation d'un président d'antan qu'on réarrange au goût du jour et qu'on maquille en répartie, un peu spontané, mais personne n'est dupe en réalité, ni les fidèles, ni les opposants, ni même ceux qui s'insurgent et qui en font un moment marquant. J'ai l'impression qu'on fait tout semblant de ne pas savoir lire les virages grossiers du langage politique, cette rentrée, le mot de trop, la petite phrase ou la fuite qui est censée cliver. Ce sont pas des sorties de route, ce sont des dérapages contrôlés.
Boomerang. Boomerang. Augustin Trapenard.
Bonjour à tous, bienvenue dans Boomerang. Mon invité d'aujourd'hui est-il dans le contrôle? En une dizaine d'années, grâce à son talent de bruiteur, figurez-vous, et d'imitateur notamment, il s'est imposé à la télé, sur scène, au cinéma, comme l'un de nos acteurs les plus populaires. La semaine prochaine, il sera à l'affiche de Tendre et saignant, de Christopher Thompson avec Géraldine Payas notamment, une comédie romantique où il incarne un artisan boucher plein de convictions et très convaincant. Bonjour Arnaud Ducret.
Bonjour, alors c'est Géraldine Payas, je me permets de vous le...
Ah moi je l'ai toujours dit Payas.
Ouais, alors justement je lui ai dit hier, elle m'a dit, oh, c'est pas possible, les gens m'appellent encore Payas. Sinon, c'est Géraldine Payas, voilà.
Payas, merci d'être avec nous en tout cas.
Avec plaisir.
Avant toute chose, le langage, ça se contrôle?
Le langage, ça se contrôle, je pense, mais oui, je pense qu'effectivement... Ou alors, il y en a certains qui balancent des choses, comme vous disiez, grossières ou autres, mais c'est évidemment aussi totalement contrôlé, et c'est pas un dérapage, mais oui, ça se contrôle totalement, bien sûr.
En tant qu'expert du langage, puisque vous en faites...
Je sais pas si je suis un expert.
...du langage en tant que comédien, qu'est-ce que vous en dites de ça, justement?
Ah bah, je pense qu'un mot a une valeur, et qu'il est des fois beaucoup plus important, et encore plus dans l'humour, ne serait-ce que de changer un mot peut changer totalement le rire, le sens de la vanne, et le sens de ce que vous voulez y faire passer au public, quoi, totalement.
Alors attendez, c'est intéressant, dans vos spectacles, Arnaud Ducret, par exemple, dans quelle mesure d'éventuels dérapages sont toujours des dérapages contrôlés?
Ouais, ce sont toujours des dérapages contrôlés où je fais croire aux gens que, comment dire, que, j'aime faire croire aux gens que je viens de l'inventer et que ça sort maintenant, c'est le but, hein, du comédien, et que tout d'un coup, certains, donc, quand ils se sentent offusqués sur un mot, et c'est pas mal, c'est tant mieux, j'ai envie de dire, parce que tout d'un coup, ça veut dire que on l'a bien sorti et qu'effectivement, ils se disent, ils viennent de le dire, là, c'est pas bien. Alors qu'en fait, ce sont des choses totalement écrites et qu'on attend leur réaction du public.
Après tout, vous êtes sur scène comme nos politiques, Arnaud.
Ouais, alors oui, mais j'ai pas la même. C'est-à-dire que moi, je suis là pour distraire les gens. Eux sont là pour nous gouverner. Et des fois, je trouve qu'effectivement, il y en a qui se permettent de dire certaines choses. Et je trouve que c'est un, voilà, ça reste pour de nos gouvernants, de nos élus. Je me dis, ouais, ok. Est-ce que c'est bien de le lire comme ça? Mais comme vous le disiez, tout est totalement contrôlé, même si c'est vulgaire parfois.
Mais vous, en ce qui concerne le langage, l'emploi de certains mots, de certaines expressions, quelle limite est-ce que vous vous mettez?
Ah moi, la limite, c'est quand tout d'un coup, je sens. Alors moi, c'est le public, hein, qui me donne le vu-mètre, on va dire. Mais c'est-à-dire que quand j'entends trop de oh ou de choses, c'est moi personnellement, voilà, je tout d'un coup, je me dis. Faut que je change. Mais par exemple, j'ai vu un autre humoriste que j'aime beaucoup, Gaspard Proust. J'ai vu son spectacle il y a pas très longtemps.
Il y a plein dehors.
Ah bah lui, c'est-à-dire que lui. Non mais comme lui, il va vraiment dedans. Il pousse tellement. Mais moi, j'adore. Mais moi, je suis assez familial. Et donc, je fais en sorte que la balance ne parte pas d'un côté ou de l'autre, mais que de tenir comme ça.
Vous dites que par exemple, vous ne cédez jamais à la vulgarité.
Je veux pas céder à la vulgarité. J'avais un sketch sur mon premier spectacle, pour être très honnête avec vous, où tout d'un coup, la lumière s'allumait, j'étais aux toilettes.
Oh non.
Oui, et j'appelais quelqu'un. Et sauf qu'en appelant, j'appelais les gens et je faisais oui parce que tu sais si et donc la personne me disait ça coupe, oui non c'est un problème de réseau, mais j'étais, je vous assure,
c'était la ligne là,
c'est-à-dire que les gens, vraiment le public se marrait et j'étais sur la ligne, c'est-à-dire que si j'avais eu un papier toilette dans la main ou un truc comme ça, c'est le détail qui fait que tout d'un coup tu dis ah ouais non ça passe pas, et j'étais sur la ligne, quoi.
Donc vous fixez des limites sur scène, dans la vie est-ce que vous fixez des limites aussi?
Non, dans la vie je peux dire des choses non dans la vie j'ai dit des choses horribles avec mes potes, j'ai ma femme qui me fait oh mais c'est pas vrai, mais écoute mais tu me l'as déjà fait celle-là, hein. Mais j'ai mes potes qui sont sont pliés de rire. Et moi, ça me fait beaucoup rire. Voilà quoi.
Vous savez, c'est intéressant parce qu'il est question de langage dans le film Tendre et saignant. Pour ce film, il se trouve que vous avez dû apprendre le louchébem, un argot propre à la profession des bouchers. L'apprentissage de ce langage, c'est passé par quoi, justement?
Ah, moi, vous savez, c'est phonique. Hein. On reproduit ce qui est écrit. Et puis, on avait quelques vrais bouchers qui étaient là, qui d'ailleurs, des fois, nous disaient, non, je... Alors, il y a une variation. C'est-à-dire qu'il y a des variantes. Ils le disent pas tous de la même façon. Mais on l'a appris. Alors, je vous avoue qu'à la fin du tournage, et puis maintenant, on l'a tourné parce qu'il y a eu la pandémie entre deux. Donc, je crois qu'on l'attendait il y a 7 ans, ce film. j'ai un peu oublié tout ce louchébem. Mais c'était le langage des bouchers pour faire en sorte que les clients n'entendent pas ce qu'ils se disent entre eux. Donc c'était pour arnaquer le client sans qu'il le sache.
Ça dit aussi quelque chose de ce que c'est que d'incarner un personnage, ce que vous faites au cinéma, Arnaud Ducret, mais aussi dans vos spectacles avec vos imitations. En quoi incarner un personnage? Bah, c'est apprendre à parler sa langue.
Ah, bah, c'est apprendre à parler la langue, ça passe par le physique, ça passe par la façon de passer sa mâchoire, sa langue. Donc oui, c'est un tout en fait, quoi. Tu ne peux pas avoir un personnage si tout d'un coup tu prends pas sa voix, donc, et son parler. Donc tout va ensemble.
Parce que quel outil est-ce que c'est le corps pour un comédien?
Ah, pour moi c'est primordial. C'est-à-dire que j'aime les acteurs qui sont, vous savez, animal. Je pense à Jack Nicholson, pour parler, Gérard Depardieu est animal. C'est des acteurs comme ça Mel Gibson est animal. Je trouve que c'est primordial de savoir se servir de son corps. Et c'est pas évident, mais de ne pas en avoir honte ou de l'accepter. Et ça passe par là, quoi, la façon de marcher. Et tout d'un coup, je pense qu'à l'écran, ça se sent. Il y a des acteurs, tu vois leurs mains. Ils ont une façon de les poser différente. Denzel Washington fait ça très bien, par
exemple. Se servir de son corps aussi, en particulier quand on essaye de faire rire, quand on est humoriste, quand on est sur scène avec cet objectif-là.
Ah, mais totalement. Moi, depuis que je suis tout gamin, j'ai toujours posé des scènes où aimé faire rire les gens qui m'entouraient avec juste le corps et les emmener dans mes situations avec le corps, avec les bruitages, avec le visage, et que tout d'un coup, ils y soient. Là, je fais un grand-père dans mon spectacle, dans une maison de retraite, qui a un plan Tinder. C'est un de mes sketchs. Il a un plan Tinder avec la petite Samantha de la chambre 21 qui est à côté. Mais quand ils se parlent, ils se comprennent pas. Ah, parce qu'il y en a aucun qui comprend l'autre. Et en fait, il veut absolument coucher avec elle parce qu'ils ont. Moi, je trouve ça très joli parce qu'en fait, ils ont encore une vie et elle est aussi sexuelle. C'est ces petits vieux des EHPAD. Et je trouve ça assez beau. Et donc, j'en ai fait un sketch. Et oui, ça passe par le corps totalement de se vieillir de tout ça. Quoi.
Et ça se travaille.
Ça se travaille depuis que je suis tout gamin, en fait. Je crois qu'inconsciemment, j'ai toujours travaillé ça depuis que je suis tout petit. Les bruitages, j'ai toujours fait ça en regardant la télé. Moi, je suis un enfant de la télé. Je regardais France 5, La 5, pardonnez-moi, ouais. À l'époque. Et je regardais des trucs de bruit de voiture. Je voyais une voiture passer. Tout d'un coup, je faisais le bruit de la voiture. Je regardais les Formule 1. Je regardais un mec qui nettoie les carreaux. Je faisais la guitare.
Arnaud, qu'est-ce que vous nous faites?
Voilà. Je faisais du beatbox.
Il est inarrêtable.
Et donc, je m'en suis servi depuis que je suis tout gamin.
Et puis, vous avez fait de la danse et de la comédie musicale aussi. Qu'est-ce que c'est que cette histoire?
Bah, quand j'étais jeune, à l'âge de 13 ans, ou 12 ans, je crois, 12 ans et demi, 13 ans, ma sœur était, Mélanie, était dans une troupe de comédie musicale, parce que ma sœur chante très bien. Et moi, j'étais un élève très perturbé. J'étais pas du tout fait pour l'éducation nationale, ou l'éducation nationale n'était pas faite pour moi. Mais je me suis retrouvé à ma sœur un jour me dit, tu devrais venir avec moi dans cette troupe. Tu vas, parce qu'elle savait que j'aimais la scène. Hein, j'ai toujours aimé ça. J'y suis allé. Et effectivement, la première fois que je suis monté sur scène, ma vie a changé.
Mais ça fait partie de l'éducation du corps aussi. C'est cette approche presque chorégraphique des rôles, Arnaud Ducret, concrètement, pour ce rôle de boucher dans Tendre et saignant, quel geste est-ce qu'il a fallu apprendre à maîtriser?
Je suis allé chez Hugo Desnoyers, un des bouchers stars de Paris, qui m'a appris à manier le couteau, et surtout, j'ai appris à découper la viande, je me suis imprégné aussi de l'ambiance qu'il y avait, parce que vous savez, c'est comme une scène, en fait. Tout d'un coup, quand le boucher, le rideau de fer se lève, et qu'il fait rentrer les clients, bah, il a toujours le petit mot gentil, il est charmeur, c'est comme une pièce de théâtre, quoi. Il fait son one man, on va dire. Et donc, je m'imprégnais de toute cette ambiance qu'il y avait dans cette boucherie pour pouvoir être crédible, le plus crédible à l'écran.
C'est intéressant, on parlait de contrôle, justement, chorégraphie, et également langage contrôlé. Arnaud Ducret, dans quelles circonstances est-ce que vous ne vous contrôlez plus? Question que j'avais jamais posée à l'antenne.
Quand je fais l'amour.
C'est ça. C'est ce que j'avais. Quand est-ce que vous lâchez les chiens?
Non. Quand est-ce que je me contrôle plus?
Vous avez le droit, hein. C'est pas mal.
Non, je me contrôle, je sais pas. Quand je suis avec mes copains, quoi. Je pense que c'est ça, quand je suis avec les gens de confiance que j'aime et qui m'entourent, et que je sais qu'il n'y aura pas de, jugement, et qu'ils me connaissent depuis que je suis jeune, et que donc on peut tout se permettre et s'amuser entre nous.
Vous savez qu'il y en a une qui lâche rarement les chiens dans cette émission, peut-être que vous la connaissez, Arnaud, c'est évidemment La Culture et son accueil était tout à fait timoré. Que se passe-t-il donc aujourd'hui, mardi 11 janvier? En avant la musique, en avant les victoires, la 37e cérémonie des récompenses de la musique francophone se tiendra le 11 février prochain. Et hier, la liste des artistes nommés a enfin été révélée. Le rappeur Orelsan et la chanteuse Clara Luciani s'imposent comme les grands favoris de la soirée, avec 4 citations chacun. Ils sont suivis de près par Juliette Armanet et le groupe Feu Chatterton qui en ont 3, puis de la Belge Angèle retenue par 2 fois. Enfin, les prix des albums les plus streamés pour un et une artiste seront remis à SCH et à Aya Nakamura. Hop là.
De l'art,
De l'art.
J'adore.
Un ange c'est bien, des anges c'est mieux. Le critique d'art et commissaire Guillaume Desanges vient d'être nommé à la tête du Palais de Tokyo. Il y remplacera Emma Lavigne, partie en octobre diriger la collection Pinault. Autodidacte, figure installée du milieu de l'art depuis près de 20 ans. Il a notamment curaté la Verrière Hermès à Bruxelles et dirigé le très pointu Salon d'art contemporain de Montrouge. Son objectif au Palais de Tokyo, en faire un lieu réactif, indéterminé, un peu sauvage, sensible aux questions sociétales et à l'actualité.
Viens petite fille dans mon comic strip.
Cheval, pas, blanc, whiz.
Avec Gianna, l'album Gianna de la BDiste italienne Arianna Melone vient de recevoir le grand prix de la BD Artemisia 2022, une récompense créée en 2007 en hommage à Simone de Beauvoir qui sacre chaque année le travail d'une autrice de BD pour le rendre plus visible. L'ouvrage paru chez Albin Michel met en scène les combats d'une étudiante contre les carcans conservateurs de l'Italie des années de plomb. Et enfin, mardi d'anticipation, séance à profusion, car demain dans les salles obscures, en attendant Tendre et Saignant, Arnaud Ducret qui n'arrivera que le 19 janvier, on embarque pour Ouistreham avec Emmanuel Carrère qui signe une adaptation libre, sociale et lumineuse du livre Enquête de Florence Obna, publié en 2010. On frissonne avec le 5e volet de la saga culte et sanglante Scream. Et sinon, on s'évade avec Jane par Charlotte qui nous plonge dans les amours, les souvenirs, les fantômes de la fratrie Gainsbourg. Bref, on y court. Et donc le comédien Arnaud Ducret, invité de Boomerang ce matin pour Tendre et Saignant au cinéma la semaine prochaine. L'histoire d'un homme qui voit son métier de boucher comme une vocation. Votre vocation de comédien, elle est née comment ?
Elle est née quand j'étais tout gamin. J'étais à l'école. C'est là où l'éducation nationale aussi est quand même une valeur extraordinaire pour les
Merci, enfants. Vous connaissez votre public.
Non, mais c'est pas ça. C'est parce que je n'étais pas bon, mais tout d'un coup j'ai été sauvé par ma prof de français, Madame Couillard, qui était ma prof de français que j'aimais tant. Elle est décédée depuis, elle était venue me voir à Paris, je me rappelle, c'était très émouvant.
Elle a vécu ce que j'ai vécu, hein, les noms de famille en art.
Voilà, c'est ça, c'est pas
c'est
voilà,
un club.
Ouais, Madame Couillard et Madame Vadeblay qui était l'adjointe du directeur. Et en fait, j'étais pas bon, mais je faisais beaucoup rire ma prof de français. C'est-à-dire que quand elle me punissait, je la faisais rire, et donc elle disait à ma mère, je le punis, mais il me fait tellement rire que je n'arrive pas à tenir la punition. Donc j'imitais plein de profs et tout, et ça la faisait marrer. Hein. Elle me dit, Arnaud, tu devrais faire du théâtre. Elle m'a mis au théâtre aussi à l'école, et c'est vrai que j'ai tout d'un coup le regard des professeurs quand je suis arrivé au spectacle de fin d'année que j'ai joué un sketch, m'ont regardé totalement différent. J'ai fait tomber la barrière.
Et puis il y a eu Albert Dupontel à un moment donné. Oui. Quand vous pensez à lui, quelles images, quelles émotions vous reviennent tout de suite?
Rambo, je vois un mec avec une énergie que je n'avais jamais vue avant, qui me correspondait moi. J'ai vu un mec arriver quand il fait Rambo, qui fait ah putain, hier j'ai vu un film et qu'il arrive en faisant ah putain c'est Rambo, ah putain, et qu'il arrive comme ça et que je le vois avec le, il se tient l'entrejambe et tout, je me fais waouh, c'est quoi ce mec, et il arrive en faisant Rambo, ce mec où il explique qu'il a vu un film qui s'appelle Rambo, ce mec de zonard, ce mec de zone quoi, enfin un zonard qui raconte ça quoi, et là je dis, je prends une claque, je me rappellerai toujours, et ma mère m'achète les cassettes. Et donc je les ai usés et reproduit ce que faisait Dupontel à la scène.
Au fond, Arnaud Ducret, pourquoi le rire ?
Ah bah moi c'est un exutoire, et puis moi c'est surtout ce qui m'a permis de me faire accepter parfois, ou de croire, je croyais me faire accepter parce que je faisais rire les gens, donc je me disais voilà, c'était, je vous dis hein, ça part de là, du professeur qui rigole alors qu'elle est là, alors que je suis pas bon élève, donc souvent je me fais punir, et puis en fait tout d'un coup elle se marre et je vois son visage sourire, ses yeux me regardaient, elle me regarde avec quelqu'un en riant, et je me dis waouh, ça c'est ma vie, c'est comme ça que je...
J'ai l'impression qu'il y a un peut-être quand vous en parlez, vous n'êtes pas vraiment sûr que ça marche.
Bah parce que je veux dire oui, je pense que ça marche. Je pense que c'est et puis rire chaque jour, c'est une valeur extraordinaire.
Mais de quel genre d'angoisse est-ce que vous vouliez vous libérer, vous ?
Bah du fait que j'étais mauvais élève, du fait que j'étais je me sentais bête. Je me sentais pas malin, pas intelligent, et je me disais bon, à part faire rire les gens, qu'est-ce que je sais faire d'autre ? Mais évidemment, la vie c'est plus que ça. Mais en tout cas, ça m'a énormément apporté, et je crois le faire plutôt pas trop mal. Donc tout d'un coup, ça a été pour moi.
Ça a commencé par un bruitage.
ça a commencé par un bruitage. Ben, ça a commencé par
le rire, le premier rire, ah, le premier éclat de rire.
Le premier éclat de rire, ça a été ça, ouais, effectivement, quoi. Alors, puis j'adorais aussi faire punir mes potes. Je faisais des bruits dans la classe, puis c'est mes potes qui se faisaient punir, en fait.
Par exemple, je faisais.
Alors, c'était ridicule, hein, mais c'était. J'étais gamin, hein, donc mes potes s'asseyaient, je faisais un bruit de paix.
Et, un classique.
Et ouais. Je dis, mais alors, c'est pas possible. Et donc le mec, alors, le professeur s'entendait, il fait, bon, tu sors, ça suffit, ça fait deux fois. Maintenant, pour respect pour les autres, tu sors. Et donc, mon pote, il m'a regardé, il disait, mais c'est pas moi, c'est Arnaud, c'est lui qui le fait. Je dis, mais t'es malade, je suis en train de travailler, mais c'est n'importe quoi. Donc il se faisait virer.
Mais la première chose que vous ayez bruité dans votre vie, c'était quoi?
Ah, je crois que le premier bruit que j'ai fait, c'était, j'écoute NTM, Supreme NTM, dans mon casque, et j'entends le beat qui font de batterie, et donc je vais.
Mais vous savez tout faire, Arnaud Ducret?
Non, je ne crois pas savoir.
Genre la machine à café. La porte qui s'ouvre. La porte qui se referme. Le compte à rebours. Le boomerang. Le train qu'on prend pour aller à Paris et prendre des cours de théâtre. Dans quel état est-ce que vous êtes arrivé ici, à Paris?
J'étais un peu perdu. Je me disais, cette grande ville, qui en fait n'est pas si grande que ça quand tu la connais, mais il faut la connaître. Et surtout, j'étais là en train de me dire, un jour, je voyais des affiches, je disais, un jour, ce sera marqué Arnaud Ducret.
Vous vous doutiez que ça allait être si long?
Non, je pensais, pour moi, il fallait que ce soit court. Comme je le dis souvent, faut être impatient dans ce métier parce que les gens le sont suffisamment pour vous. Donc, voilà. Mais je trouve bien de faire les choses étape par étape.
Mais comment vous avez fait pour tenir concrètement?
La positivité, je crois, et puis l'amour de mes proches qui ont toujours cru en moi et qui, ça m'est arrivé d'appeler ma mère quand j'étais en cours de théâtre, que j'avais plus d'argent, je lui disais, maman, en pleurant, je faisais des castings, je vais jamais y arriver. Ma mère me disait, mais si, tu vas y arriver, t'inquiète pas, tu vas y arriver. Alors, je suis quelqu'un de très positif, ça m'est arrivé très peu de fois, mais j'ai appelé ma maman, comme tous les garçons, les grands garçons ou les demoiselles, voilà, en disant,
Donne-moi un peu de sous, quoi.
Ouais, donne-moi du pognon parce que je suis dans la merde, je peux plus manger.
Donc, surtout, vous avez fait plein de choses, vous avez accepté toutes sortes de petits boulots, notamment doubleur, j'ai entendu.
Oui, Alors, ça fait partie de mon spectacle d'ailleurs, mais
j'ai été doubleur de film. On va pas se mentir. Moi, j'avoue que ça m'a laissé songeur.
Ah bah, c'est-à-dire que alors, je vous explique. Beaucoup de doubleurs de films maintenant qui sont très connus ont commencé par ça. C'est-à-dire que parce que t'as pas besoin. Je t'avoue que t'as pas beaucoup de dialogue. Hein. Faut avouer que dans le porno, l'intrigue. C'est pas là-dessus qui se penche le plus. Mais par contre, j'apprenais à faire, à faire les voix. Et puis tout d'un coup, voilà, je faisais tous les.
Non, mais attendez. Alors moi, je veux bien qu'on essaye, mais simplement au soft, hein, parce qu'il est 9h24 sur France Inter. Vous voulez une musique?
Allez-y, ouais.
Musique.
Hey. Alors, je fais le mec qui sonne à la porte. Bonjour. Bonjour. Ça, c'est la fermeture.
Non. Stop! Là, je me tourne vers ma réalisatrice, je dis stop!
Non, mais c'est surtout que je vous explique, c'est que dans le spectacle, je mime. Alors, ça devient que les gens ne voient plus un
film. Non, c'est non!
Mais voient quelqu'un mimer un ébat, et là, ça marche du feu de Dieu dans le spectacle. C'est-à-dire que les gens, et tout d'un coup, le mec se retrouve à faire des bruits, puis tout d'un coup.
Non, mais non!
Et tout d'un coup, il regarde dans le fond, il dit qu'est-ce que c'est que ça? Il voit dans le fond de l'écran, puis il entend. Bah, il y a une...
Vous savez quoi? D'habitude, je dis, on va en reparler, hein, tout à l'heure. Là, on va pas en reparler, en fait. Jamais de ce qui vient de se passer. On a pu écouter un titre que vous nous avez soufflé en tout bien, tout honneur.
Oui.
With a Little Help from My Friends de Lennon et McCartney, interprété par Joe Cocker. Oui. En 1969, vous êtes sur France Inter avec Arnaud Ducret. Vous écoutez Boomerang. Évidemment.
What would you do if I sang out of tune? Would you stand up and walk out on me? Lend me your ears and I'll sing you a song. I will try not to sing out of key. Yeah. Oh, baby, how do you know? All I need is my brother. I say I'm gonna get high. Oh,
And it happens all the time, yeah.
What do you see when you turn out the light?
I can't tell you, but it sure feels like mad. Don't you know I'm gonna make it with my friends?
On est quelque part entre le Bachelor, le Géant Vert et un des deux cow-boys de Brokeback Mountain.
Ah, c'est moi
un
ça?
Un colosse. Sourire cana et gendre idéal, la danse saine, le regard bagaudois, la poigne rassurante avec son pull bleu marine et ses chaussures jaunes. Ses chaussures jaunes.
Oui.
Le comédien Arnaud Ducret, invité de Boomerang ce matin pour Tendre et Saignant en salle la semaine prochaine. Et je me suis demandé, avec quel film est-ce que vous avez grandi? Vous.
La grande vadrouille, les bronzés, moi je suis de 78, les bronzés, Shining, les zombies de George Romero, qu'est-ce que j'ai d'autre, j'en ai plein.
Mais dis donc, un éclectisme total.
Ouais, bah moi j'adore les films d'horreur hein, également, au grand désarroi de ma femme. Mais comment tu peux regarder ça? Comment tu peux regarder ça? et donc voilà, non j'ai ouais, j'aime beaucoup de choses quoi.
À quoi ça tient une grande performance d'acteur pour vous?
C'est assez basique, mais quand on oublie totalement qui on a devant nous, c'est-à-dire que c'est marrant de connaître des comédiens qu'on voit à côté qui ne sont pas dans les films, on les connaît à peu près, et puis quand tout d'un coup ils arrivent dans un film, tu oublies ce qu'est ce mec-là dans la vie, quoi, et tu vois le personnage qu'il interprète. Et pour moi, ça c'est une des la transformation aussi, je trouve très importante. On fait plus attention à ça aux États-Unis qu'en France, mais je trouve que justement on fait plus attention aux États-Unis du corps qu'on ne le fait en France.
Et en même temps, ce qui est magnifique, c'est de retrouver aussi un comédien avec son corps et sa signature vocale, Arnaud.
Oui. Ouais, je suis d'accord, mais de toute façon, après, il y a toujours un peu de nous dans chaque personnage. Hein, on peut pas tout mais il y en a qui arrivent à tout effacer d'ailleurs. Mais je veux dire, je crois que c'est très important quoi de savoir s'oublier soi-même pour interpréter des personnages.
Et la voix, je parlais de signature vocale.
Ouais.
C'est intéressant. Qu'est-ce qu'il faut pour qu'une voix vous touche, vous?
Le grain, la façon de dire les choses, le grain. J'aime les voix, mais totalement différentes. Mais j'aime les Bon, j'ai un énorme respect pour un chanteur qui est Michael Jackson, qui a une voix extraordinaire. Et j'ai encore écouté un morceau de Off the Wall de l'album où il a une voix cristalline. C'est-à-dire qu'il est entre le gravier dans la gorge, il part très haut dans les aigus, en voix de tête, mais en voix de gorge aussi. C'est pour moi, c'est là on est, c'est un rubis.
Vous chantiez Michael Jackson quand vous faisiez de la comédie musicale en
fait? Je faisais a Billie Jean, and I'm my lover. She's just a girl, then I am the one.
Ouais.
Non, mais j'adorais Michael, et ça, d'ailleurs, ça a été un de mes premiers beatbox. Ou alors.
Voilà. Et des comédies musicales aussi.
Comédie musicale, j'interprétais de Gene Kelly, c'était I got rhythm, I got music, I got nana, who could ask for anything more.
Et West Side Story ou pas?
West Side Story, j'aurais adoré chanter Maria, un jour
better than Maria. Est-ce que Steven Spielberg était au courant? Parce que là, en fait, il y a eu un film et...
Je suis pas dedans.
Bah, non, mais c'est ça.
Ouais. Ouais, non, mais j'adore. Les Américains sont plus comme ça, mais les chanteurs à voix, j'aime ça. J'adore quand quelqu'un vocalement envoie très fort et chante très très bien. J'aime les chansons à texte, mais j'ai plus de sensibilité pour les chanteurs, les chansons à voix.
Mais ce goût pour le chant, il est venu comment?
Bah, de par Michael, en fait, de Prince Michael, c'était tout d'un coup, j'écoutais, j'avais naturellement, une sensibilité peut-être différente, ou beaucoup aiment, mais je m'intéresse énormément. Alors, même les doubleurs, par exemple, j'adore les mecs qui doublent les...
Ah, ça, on a compris, vous n'avez pas nous le refaire.
Non, mais vous savez, nous, moi, quand j'étais gosse, je n'avais pas la VO. Je viens de Rouen, j'ai une petite couronne avec mes parents, on regardait, on n'avait pas la VO, on allait au cinéma, c'était en VF. Mais ces gens-là, comme, plein de doubleurs, Patrick Poivet, par exemple, qui est décédé, qui faisait Tom Cruise, qui faisait, voilà, Bruce Willis, ces gens-là m'ont donné c'est ces gens-là aussi qui m'ont donné envie de faire ce métier, parce que moi je m'identifiais à la voix que ces mecs, Richard Darbois qui fait le génie dans Aladdin, qui fait Buzz l'éclair, ouais, qui est extraordinaire.
Et c'est bouleversant de les retrouver d'ailleurs d'un film à l'autre avec
un
acteur différent.
Et ces mecs-là nous ont donné envie de faire ce métier.
En fait, vous êtes un homme orchestre, hein, ouais. Arnaud Ducret. C'est pas forcément quelque chose que vous avez l'occasion de montrer au cinéma, ça.
Non. On m'avait proposé une comédie musicale une fois d'ailleurs, mais ça ne s'est pas fait. Mais les choses arrivent. Il y a tellement de films à faire encore que j'espère qu'on me proposera des films de ce genre.
Mais c'est aussi pour ça que vous êtes sur scène.
Ah, moi je suis sur scène déjà. Alors je n'ai jamais fait de la scène à mes débuts pour faire du cinéma, parce qu'il y en a beaucoup qui font de la scène pour qu'on les repère, ce qui est totalement légitime, et faire du cinéma. Moi j'ai fait de la scène parce que je voulais faire de la scène, parce que j'adorais rentrer dans un théâtre, j'adore encore rentrer dans un théâtre avec mon équipe technique, et puis avoir les gens rentrer, voir les gens faire la queue, c'est quelque chose qui me bouleverse énormément.
Qu'est-ce qui se passe quand vous entrez sur scène, quand vous arrivez sur les planches?
Ah bah j'arrive comme un lion, et pour moi chaque date est un... Vous savez, quand vous écoutez un album ou que vous regardez un concert, vous dites à un copain à vous, tu vois le chorus de guitare là, écoute, il va faire un chorus et tu vas voir, je t'en ai parlé, il est génial. Donc vous voulez qu'il fasse exactement le même chorus que ce que vous avez entendu. Et ben sur scène, quand tu fais un one man, c'est pareil. Quand un mec te dit, tu vois, Ramon, il fait le mec bourré sur scène, c'est hyper drôle, faut que tu le fasses comme le mec qui l'a vu.
Sauf que ça n'arrive jamais.
Oui, mais il faut une grande rigueur pour toujours se donner au max et de tenir toujours tendu, à flux tendu le spectacle que tu fais, pour que les gens soient toujours à te regarder et voient le mec que tu as fait il y a une semaine, ils veulent voir le même personnage.
Ça se travaille, le contrôle?
Le contrôle, ça se travaille.
Ça progresse.
Ouais, le contrôle, ça se travaille. Et pour moi, j'ai une grande rigueur sur scène. Enfin, les gens avec qui je travaille, c'est vous le diront peut-être mieux que moi, mais pour moi, c'est un combat à chaque fois. Et il faut être très rigoureux dans le travail, dans l'écriture, dans la rythmique. Quand quelque chose ne va pas une fois, deux fois, trois fois, tu changes, tu enlèves. Avec mon co-auteur que je cite, que j'aime beaucoup, qui est un grand artiste aussi, Tom Villa. Il est formidable. Ouais. Il a co-écrit avec moi le spectacle. Tom m'appelle tous les soirs après le spectacle. Alors, qu'est-ce qu'il y a, machin?
Et vous testez encore des choses sur scène?
Bien sûr, monsieur. Là, il y a d'ailleurs, il est venu à la dernière, où j'ai quand même un spectacle qui est quand même bien construit, je crois. Effectivement, à la fin, il me dit, ah, tu vois, ça, on devrait peut-être renforcer, ça va pas, le petit. Donc, on est tout le temps en train de, effectivement.
Mais sur scène, tout seul, il vous arrive de tester des choses?
Ah oui, bien sûr. Mais alors, moi, je ne suis pas dans l'impro. C'est quand quelqu'un vous dit, ah ben, moi, je fais tout en impro, c'est des conneries.
Les
gens mentent, ça me dégoûte. Non, mais je veux dire, la plupart du temps, tout est écrit et les mecs te font croire que c'est l'impro, parce que si ce n'est que de l'impro, il y a trop de choses qui se perdent et le public, tu le perds aussi, quoi. Donc oui, j'essaye des choses, mais je reste quand même assez campé sur ce que j'ai écrit. Après, c'est tout d'un coup un rire de quelqu'un.
Ouais, par exemple, dites-moi.
Bah, je sais pas, mais l'autre fois, j'avais fait un téléfilm qui s'appelait Mensonge, où je faisais le rôle d'un violeur, l'autre fois sur scène. Je dis aux gens, très clair, vraiment dans mon spectacle, il y a un passage, je dis, vous savez ce qui m'a le plus manqué pendant 5 ans? Et là, écoute-moi bien, au milieu, il y a une fille qui fait « Le viol !» Et là, il y a un blanc dans la salle,
je comprends,
tout le monde s'était, et je fais « Pardon ?» Et là, la fille se met à se marrer, donc je pense qu'elle parle de mensonge qui venait juste de passer.
Bah, j'espère pour vous.
Ah ouais, je lui dis, mais ça n'a rien à voir avec moi. Elle me fait, non, je fais, ah bon, bah déjà, ça s'est réglé. Et je dis, mais donc j'ai compris qu'elle elle riait de ça. Mais par exemple, là, tu interviens et t'es obligé de jouer avec ça, parce que c'est tellement improbable que.
Et quelle liberté, en fin de compte, est-ce qu'il vous offre cet espace de la scène, encore aujourd'hui?
Bah de la liberté de pouvoir à peu près dire ce qui moi me fait rigoler, ce qui me donne envie, ce qui me touche, donc je le fais. Je peux pas le faire dans les films quand c'est les personnages, parce que je dois me donner, je suis comment dire, pour le au service du film, au service de ce personnage, mais là je peux mettre un peu ce que j'ai envie. Puis il y a des choses qui me font rire dans la vie,
et puis d'être à vous entendre à la rencontre des gens tout le temps, en fait, d'être à côté des gens.
Il y a Jamel Debbouze qui m'avait dit, quand j'avais fait Marrakech du rire avec lui, m'avait dit, tu sais Arnaud, ne perds jamais ton spectacle, parce que c'est ce qui te lie avec les gens. Bah, il me dit, un film qui marche à côté, c'est la cerise sur le gâteau. Mais au milieu, ne perds pas ça. Et alors, j'ai entendu ce qu'il m'a dit, mais je l'ai compris effectivement quand j'ai sorti des films que je n'avais plus de spectacle. Le film, il marche, c'est formidable. Le film, il marche pas. Bon, bah, t'as les boules. Et puis au milieu, tu fais plus rien, quoi. Parce qu'une fois que la promo elle est terminée, t'as rien. Tu n'existes plus artistiquement. Et c'est là où j'ai compris. Je me suis dit, mais oui, et il faut garder ce spectacle et le lien. Alors ça peut être par le one man ou par le théâtre, mais le lien, ce qui te lie avec les gens. Moi, j'aime aller à la rencontre des gens, et j'aime sortir et que les gens, faire des photos avec eux. Enfin, c'est quelque chose c'est mon énergie. Je le dis d'ailleurs sur scène, vous êtes mon énergie. Si les gens ne sont plus là, ça sert plus à rien de faire ce métier, quoi.
Je voudrais vous remercier pour cette énergie, justement. Merci. Arnaud Ducret. Merci d'être venu faire un tour dans cette émission. Je rappelle que Tendre et Seigneur de Christopher Thompson avec Géraldine Pellas sort la semaine prochaine. Je précise aussi que vous êtes en tournée dans toute la France avec votre spectacle That's Life. Tout de suite, c'est l'heure des médias avec Sonia De Villers, juste après ça.
Les jours passent et se répètent. J'aimerais bien que ça s'arrête. J'ai besoin de faire la fête. J'ai trop d'onglets dans la fenêtre. Ça se voit, tu y penses, et ça se voit.
Ça se voit, Jacques, sur France Inter. Il est 9h40 avec Sonia De Villers. L'instant M, vous l'entendez, Sonia?
Ah oui, je vous entends, Augustin. Je vous entends tous les matins.
C'est une angoisse existentielle.
Je sais, hein. Je sais.